Monsieur Dominique Désiré Irénon, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Ferdinand Kouina. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Ndekeluka.
Les députés sont convoqués en session extraordinaire. Quels sont, selon vous, les enjeux de cette convocation?
Je pense que d'un point de vue politique, la convocation de cette session s'inscrit dans un plan de sauvetage du processus électoral qui est qualifié aujourd'hui par beaucoup comme un processus qui est enlisé, c'est-à-dire c'est un plan de sauvetage par rapport à un naufrage qu'on constate au niveau du processus électoral. Je crains que cette session extraordinaire ne suffise pas à régler tous les problèmes qu'on constate aujourd'hui dans le processus électoral. Parce que l'enrôlement des électeurs sur le terrain pose problème. Il ne suffit pas de convoquer une session pour comprimer les délais de convocation du corps électoral, de comprimer les délais de traitement des contentieux liés à l'inscription sur les listes électorales et candidatures pour pouvoir régler tous les problèmes qu'on constate aujourd'hui. À mon avis, le problème est beaucoup plus sérieux et il faut envisager la solution de ces problèmes de façon globale. La loi électorale qui doit être révisée au cours de cette session extraordinaire, je pense que d'un point de vue juridique, il n'y a pas de problème, ça peut être révisé. Mais le bon sens nous amène à nous poser la question de savoir est-ce que ça vaut la peine qu'on puisse réviser une loi qui est à sa toute première application. Parce que figurez-vous, cette loi a été adoptée et a été promulguée le 20 août 2019. Et c'est la toute première application de cette loi qu'on fait par rapport au processus électoral dans notre pays. Et à peine on entame l'application de cette loi et on veut procéder à sa révision. Moi, je pense qu'on ne modifie pas les règles du jeu en cours de jeu.
Est-ce possible aujourd'hui pour le chef de l'État de convoquer le corps électoral étant donné que aujourd'hui l'ANE peine à boucler en bonne et due forme le processus d'enrôlement?
L'article 33 de la loi électorale est clair. Le président de la République dispose de la prérogative de convoquer le corps électoral. C'est-à-dire que tant que le corps électoral n'est pas constitué, le président de la République ne peut pas prendre son décret. Sinon, s'il le fait, son décret serait entaché de ce qu'on appelle en droit un vice de forme. Et quand il y a vice de forme, eh bien le décret pourrait être attaqué devant les juridictions compétentes pour vice de forme et risque d'être annulé pour illégalité.
En vertu de l'article 136 du Code électoral, certains fonctionnaires et agents de l'État devaient naturellement faire une demande de cessation de travail pour une période de 3 mois. Qu'en sera-t-il pour les membres du gouvernement? Doivent-ils faire aussi la même demande pour permettre l'égalité de chance entre les candidats sur le terrain?
L'article 136 de la loi électorale dispose que les fonctionnaires et agents de l'État qui souhaitent être candidats aux élections présidentielle ou législative devraient procéder à une mise en disponibilité, c'est-à-dire qu'ils doivent solliciter une mise en disponibilité par rapport à leur corps de la fonction publique. Mais cette disposition, que cela soit clair ici, ça ne concerne pas le président de la République en fonction, ça ne concerne pas le Premier ministre en fonction, ni les membres du gouvernement en fonction. Ça, c'est la loi. Ils ne sont pas obligés. Maintenant, d'un point de vue éthique, d'un point de vue politique, le président de la République peut estimer qu'il n'est pas normal que les membres du gouvernement, puisqu'ils sont en fonction, puissent user les moyens de l'État et leur influence pour pouvoir aller en campagne. Ça va créer une sorte d'inégalité entre les candidats qui sont ministres en fonction et ceux qui ne sont pas ministres.
Le processus électoral apporte chaque jour des faits nouveaux. Le dernier en date, c'est l'inscription sur la liste électorale de Ali Darassa, connu par tout le monde comme un étranger. En quoi cela vous inspire?
En tant que Centrafricain, le sentiment que j'éprouve est celui de colère. Mais vous comprendrez que ma colère, elle est saine, c'est une colère républicaine. À partir du moment où l'article 12 de la loi électorale de notre pays dit que pour être inscrit sur les listes électorales, il faut remplir une condition majeure. Et cette condition majeure, c'est la condition de nationalité. Depuis quand Ali Darras, chef de l'UPC, serait devenu Centrafricain pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales? Moi, je pense que c'est une situation qui est totalement fâcheuse et en tant que Centrafricain, on ne peut qu'être consterné et je pense que de mon point de vue que le Rubicon a été franchi. Jusqu'où vont aller les groupes armés dans notre pays? Monsieur Ali Darras, sa place c'est pas sur les listes électorales. Sa place c'est plutôt en prison. Parce que Ali Darras, c'est un monsieur qui tient des armes, qui fait souffrir la population dans notre pays depuis un certain nombre d'années. Il a signé un accord de paix dont il refuse d'appliquer les dispositions. Et aujourd'hui, on apprend que monsieur est allé s'inscrire sur les listes électorales. Ça veut dire qu'en s'inscrivant sur les listes électorales, il est centrafricain. Ça veut dire qu'il peut même être candidat. Et moi, aujourd'hui, l'inscription de Ali Darras sur les listes électorales mérite d'être attaquée devant le tribunal de grande instance de Bambari. Parce que il faut qu'il nous apporte la preuve qu'il est centrafricain. Depuis quand il est centrafricain et quel est son lien de rattachement avec la République centrafricaine? Il faut qu'on nous le prouve. Est-ce que c'est un droit de sol? Est-ce que c'est le droit du sang? Comment est-ce qu'il l'a eu? Ou alors s'il a été naturalisé, qu'on nous donne la justification et qu'on nous sorte le décret de naturalisation.
Mais le fait qu'on le nomme déjà comme ministre conseiller à la primature, cela ne lui donne pas droit quand même d'être inscrit sur la liste électorale?
Pour les nominations à la primature en tant que conseiller ou bien en tant que, je dirais, chargé de mission technique pour aider le gouvernement, vous avez des personnalités étrangères qui peuvent être nommées à des fonctions comme conseiller du président de la République, comme conseiller du Premier ministre. Ça peut se faire. Nous avons des coopérants, nous avons des gens qui peuvent être nommés conseillers du Premier ministre. Mais pour Ali Daras, moi je vous dis que c'est une situation qui est anormale. Parce qu'il n'est pas centrafricain et il n'a pas le droit de s'inscrire sur les listes électorales.
Les groupes armés ont exercé et leur action sur le terrain empêche même l'ANE de boucler la cartographie. Aujourd'hui, qu'en sera-t-il pour le découpage électoral où déjà des soupçons commencent déjà à faire agiter la classe politique?
Eh bien, en application de l'article 128 du Code électoral, à la veille de chaque élection, il est normal qu'il y ait un nouveau découpage. Parce que en 5 ans, on peut estimer que la densité démographique a changé. S'agissant de la loi électorale, eh bien, pour qu'on constitue une circonscription, il faut 35 000 habitants dans une sous-préfecture. Ou alors, si c'est dans un arrondissement de Bangui, il faut qu'il y ait 45 000 habitants. Donc, vous voyez que de 2015 à 2020, sûrement, il y a eu un mouvement démographique assez important dans notre pays. Donc, certaines sous-préfectures sont peut-être plus peuplées aujourd'hui ou sont moins peuplées qu'en 2015. Et donc, il faut tenir compte de ces mouvements récents sur le plan démographique pour constituer un nouveau découpage électoral. Seulement, d'un point de vue politique, il ne faudrait pas que ce découpage électoral soit fait à la tête des candidats ou partis politiques. Par exemple, dans une région réputée favorable à telle personnalité politique ou bien à tel parti politique, il ne faut pas qu'on aille diminuer le nombre des circonscriptions. Ou alors, il faut qu'on aille augmenter le nombre de circonscriptions dans une zone réputée favorable au pouvoir. C'est ça l'inquiétude.
Le chef de l'État a rencontré une partie de la classe politique avec une partie de la société civile. La CO 2020 a boycotté cette rencontre. Pensez-vous que c'est le début déjà de la concertation dont tout le monde réclame aujourd'hui?
La concertation telle que suggérée par la Cour constitutionnelle, c'est quelque chose qui doit être mis en œuvre si jamais on se rend compte que le processus électoral est dans l'impasse ou bien connaît des difficultés et qu'on ne peut pas tenir les délais légaux, c'est-à-dire le délai constitutionnel du 27 décembre. Alors, aujourd'hui, on constate, tout le monde constate que effectivement le processus électoral est entaché d'un certain nombre de problèmes, d'irrégularités et d'un certain nombre de couacs. Alors, moi, je pense que la concertation, ça ne tue personne. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, il s'est vu décerner le prix de la paix par l'Organisation mondiale pour la paix. Et ce prix-là, me semble-t-il, a été béni par le pape. Et quand on est un homme de paix, on ne peut pas refuser de dialoguer, on ne peut pas refuser de concerter les gens quand il a un problème.
Le gouvernement peut aujourd'hui vous opposer le fait que le processus électoral suit son cours normalement et que l'ANE doit tenir les délais légaux. Donc, par conséquent, il n'y a pas de problème pour qu'il y ait concertation.
Écoutez, si le processus électoral se déroulait normalement, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette convocation soudaine de la session extraordinaire qui est en cours en ce moment au niveau de l'Assemblée nationale. La convocation de cette session extraordinaire prouve que le processus électoral a du plomb dans l'aile. De mon point de vue, il faut qu'on travaille de façon à ne pas avoir des élections bâclées. On se souvient encore de ce qui s'est passé en 1982 lorsqu'il y a eu la réélection très contestée de David Dacko. La suite, c'est quoi? Ça a été le coup d'État du 1er septembre 1982. On a connu aussi les élections bâclées de 2011. La suite, on la connaît, il y a eu l'arrivée de la Séléka. Et moi, je pense que plutôt que d'aller à des élections bâclées, il faut qu'on prenne le temps de bien faire les choses. Et reporter les élections, ce ne serait pas un drame. Au contraire, c'est aller à des élections bâclées qui risquent de constituer un drame pour notre pays.
Monsieur Dominique Désiré-Irénon, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.